Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, bonjour tout le monde, ici François Beauregard et vous écoutez sans détour l'édition du 30 mai. Demain le 1er, pas demain le 1er juin, que dis-je, dans deux jours le 1er juin. Alors voilà, le temps file, nous allons avoir des gens très bien et importants à entendre aujourd'hui, M. Louis Adam, qui est directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Car aujourd'hui, 30 mai, c'est la journée internationale de la sclérose en plaques. Louis Adam nous en parle. Madame Linda Gauthier, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, qu'on connaît plus souvent sous le nom de RAPLIC. Avec Madame Gauthier, nous parlerons de quelque chose qui est proprement scandaleux, la difficulté pour les femmes en situation de handicap d'avoir des mammographies. Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre SOR2, qui célèbre son 40e anniversaire. On parlera en fin d'émission avec Mme Boisvert. Mais en entrée de jeu, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi M. Daniel Jean, qui est directeur général de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, car cette semaine, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Daniel Jean pour en parler. Bonjour M. Jean.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci. C'est la 26e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. C'est lancé dans quelques jours. 26 éditions, ça place le sujet, là. À quoi on peut s'attendre comme manifestation, comme visibilité pour cette édition?
C'est une édition où on mise sur l'implication des citoyennes et des citoyens.
D'accord.
On invite les gens à contribuer à 100% à faciliter et l'implication des personnes handicapées dans la communauté, leur participation sociale et à réduire les obstacles. Et différents événements, effectivement, ont lieu durant la semaine où on va illustrer, dans le fond, les parcours qui sont des fois pas toujours faciles. Et je pense, entre autres, vendredi, avec notre porte-parole, Rosalie Talfa-Simard,
oui.
On va avoir une médicoserie qui va se dérouler à la Place des Arts sur l'heure du midi, où il va avoir le thème « La pratique de l'art chez les personnes handicapées ». Et des personnes invitées, la fondatrice et directrice, entre autres, de l'ILUS, qui va être là, Mme Schwartz. Il va y avoir Mme Bellavance, qui est la directrice, co-directrice générale et artistique de Corpuscule Danse. Marisol Saint-Onge, une artiste peintre. Frédéric Pallardy, directeur général de l'organisme Les Impatients. Et Lucas Patuelli, qui est...
Lazy Legs!
Oui, qu'on a utilisé, dans le fond, avec qui a permis de qu'on puisse capter les images de ses prestations pour justement notre semaine.
Bravo. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont peut-être plus directement marquer le coût en termes de pérennité des actions au-delà des manifestations qui vont être certainement bien médiatisées?
Bien, l'idée, dans le fond, c'est qu'on invite les gens à venir sur notre site web de l'Office et sur notre page Facebook pour découvrir les idées pour réduire les obstacles. Et l'idée, il y a un jeu questionnaire, il y a du matériel promotionnel. Et l'idée, c'est, dans le fond, c'est d'initier en complément avec notre plan d'engagement qu'on a lancé plus tôt dans l'année où on interpellait les ministères, organismes gouvernementaux et les communautés. Les municipalités, l'idée, c'est de maintenant interpeller les citoyennes et les citoyens et leur demander de faire la différence autour d'eux. Et on pense que les deux actions vont finir par arriver à des actions pérennes.
Parce que c'est vrai que si 16% de la population québécoise vit en situation de handicap, on peut penser que pratiquement tout le monde connaît quelqu'un qui vit dans une situation de handicap. Et donc, chacun d'un point de vue très personnel...
peut prendre une forme d'engagement, ne serait-ce que par du fait de sa relation avec quelqu'un qu'il ou qu'elle connaît, qui vit une situation d'handicap et qui conséquemment se bute parfois aux obstacles que la société nous oppose encore, on va dire de ça de cette manière. Vous avez parlé...
Dans le transport en commun.
Oui, voilà, le transport adapté, l'emploi, l'accessibilité web sont certainement des points chauds. C'est également un moment pour parler du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, qui est en fait une obligation légale pour beaucoup d'organismes ou d'entités gouvernementales au Québec. Et là, l'OPHQ a un rôle important à jouer à titre de guide.
Oui, bien, l'Office est un organisme qui, dans un de ses mandats les plus importants, c'est de soutenir les ministères, les organismes gouvernementaux et les municipalités à mieux desservir les personnes handicapées à travers les différents services et programmes qu'ils offrent. Donc, actuellement, on suit presque 200 plans d'action annuels que vous évoquiez, autant dans les municipalités que dans les ministères et organismes gouvernementaux. Et ces plans d'action annuels-là, ben, peuvent faire la différence pour les personnes. Parce qu'effectivement, c'est là qu'il y a des engagements qui se prennent au plan local qui permettent justement de réduire les obstacles. Mais il y a des ingrédients de base qu'il faut avoir pour que ça fonctionne. D'une part, il faut que les personnes handicapées soient interpellées dans l'exercice. Il ne faut pas que ça devienne un exercice fait dans un bureau, loin des personnes handicapées, loin de leur réalité, de leur vécu. Donc, un ingrédient important, c'est d'avoir une instance qui appuie le ministère, l'organisme gouvernemental ou la municipalité pour identifier les obstacles, identifier les voies de passage qui pourraient permettre de les atténuer, les obstacles. Donc ça, c'est un enjeu majeur.
Oui, parce
c'est la raison pour laquelle...
Tout à fait, parce que je pense, je m'excuse, souvent le problème dans le processus de planification, c'est que l'intervention des personnes en situation d'handicap elles-mêmes se fait plutôt en aval une fois que les jalons sont posés plutôt que de commencer en amont.
Oui, il faut parler aux gens concernés. D'une part, ça, c'est une formule gagnante et on insiste beaucoup dans notre intervention parce que l'Office, on soutient chacune des municipalités qui est assujettie à l'élaboration d'un plan d'action ou les ministères et organismes gouvernementaux. Et on revient, on tape toujours sur le clou. Avez-vous impliqué les personnes handicapées? Avez-vous trouvé des façons de faire le parcours pour s'assurer qu'on ne fait pas juste adapter la poignée de porte, mais qu'on adapte aussi tout le parcours.
C'est-à-dire oui.
De s'assurer que quand
c'est
on sort de l'autobus, qu'on veut rentrer dans l'édifice, puis même de se promener dans l'édifice, c'est pas un parcours de combattant, c'est quelque chose qui est vraiment plus accessible. Autant aussi au niveau des communications. C'est pour ça que j'allais dire tantôt, on a pris un décret en mai dernier pour justement rehausser la qualité des plans d'action, s'assurer qu'un plan d'action dans une municipalité touche autant l'accessibilité, les communications que l'emploi. Donc, d'avoir quelque chose qui est très large et qui est inclusif parce que si on veut avancer, ben, il faut prendre des actions concrètes dans toutes les dimensions.
Et il y a aussi, je pense, ça porte fruit parce que l'adoption ou l'adhésion au processus de la mise en place d'un plan d'action est beaucoup plus large que ce l'était il y a 5 ou 6 ans. Sur le site en fait, de l'OPHQ, il est question que le taux a en fait augmenté tranquillement de 70 à 80, à 96 % maintenant des organismes assujettis commencent à travailler sur le sujet. Alors, au début, ça était peut-être perçu comme étant une corvée, là, que de faire un tel plan par certains. Mais maintenant, je pense que l'idée commence à faire son chemin, que c'est simplement normal que de se préoccuper d'une portion importante de la population.
Oui, et l'idée, on aurait pu se conforter en disant on a dépassé 96 %, donc on a atteint notre objectif, bravo. Et là, au contraire, ce qu'on s'est dit, non, on a atteint une réponse positive. Maintenant, il faut s'attaquer au contenu. Il faut s'assurer que tout le monde est gagnant. Et notre message auprès des municipalités puis des ministères, c'est de dire que quand vous faites une intervention qui réduit les obstacles, ça sert à tout le monde. Ça sert aux personnes handicapées en premier lieu, on en convient. Mais ça sert aussi aux personnes qui sont à mobilité réduite, par exemple, de façon temporaire, ou des gens qui ont des incapacités temporaires qui font en sorte que, dans le fond, ils vivent une condition similaire aux personnes handicapées, mais il y a un début et une fin, exemple, suite à une opération. Donc, tout le monde, les personnes aînées aussi vivent aussi. Des fois des obstacles dans l'accessibilité des édifices. Donc, tant qu'on assure l'accessibilité aux personnes handicapées, on assure l'accessibilité à peu près tout le monde dans la communauté. C'est ça qu'il faut, les messages qu'il faut retenir. Et c'est aussi vrai aussi dans les entreprises. Quand j'adapte mon milieu de travail pour les personnes handicapées dans l'entreprise, je ne fais pas juste accueillir une personne handicapée, je développe une nouvelle vision d'affaires. Donc, j'ai des employés qui maintenant comprennent la réalité des personnes handicapées puisqu'ils le vivent et qui peuvent ajuster l'offre de services pour avoir une entreprise vraiment plus inclusive avec des produits inclusifs. Donc, c'est dans le fond, c'est une roue qui tourne, qui peut tourner dans le bon sens si on s'y prend bien comme il faut.
Et dans le milieu de l'emploi, entre autres, ça a des retombées importantes en termes, je dirais, d'esprit d'équipe, de fierté ou de sentiment d'appartenance à l'organisation avec laquelle on travaille quand on sent que cette organisation se soucie des gens, il y a une ouverture. Et ça, c'est bon pour toute l'organisation, pas juste pour la nouvelle personne qui vient de commencer un emploi dans un milieu et pour laquelle une adaptation a été faite. C'est beaucoup plus large que ça. Les autres grands chantiers entre aujourd'hui et la prochaine semaine qui aura lieu début juin en 2023, dans les 12 prochains mois, M. Jean, quels sont les chantiers auxquels vous voulez vous attaquer?
On travaille beaucoup sur les plans d'action. Comme je vous ai dit, là, on a un nouveau décret. Donc, pour les municipalités, ce décret-là entre en force le 1er janvier. Pour les ministères et organismes gouvernementaux, c'était le 1er avril. Donc là, on travaille beaucoup à donner de la formation, à outiller les gens pour pouvoir bien faire les plans d'action, mais aussi tout notre projet de simplification, exemple dans ce qu'on est en train de faire pour l'accès à des services. On a réglé le premier problème qui était le chantier 1, qui était les communications. On a regroupé sur québec.ca, sous un onglet « Personnes handicapées », les programmes qui s'adressent aux personnes handicapées. Donc maintenant, on cherche beaucoup moins, on a une information qui est regroupée et ça a été vraiment plus loin qu'on le pensait. Mm-hmm. On a eu une fréquentation sur cette page-là qui était fantastique. On a un chantier 2 sur lequel on travaille, c'est les passerelles entre les programmes pour simplifier les choses. Il y a deux enjeux dans les programmes. Hein. Il faut qu'ils soient accessibles, il faut que les gens puissent s'y rendre, d'une part. Donc, il faut créer des parcours accessibles. Donc, il faut, dans le fond, repenser nos espaces de travail où on donne des services aux personnes, mais aussi il faut rendre les programmes plus fluides. Puis ça, quand on est dans les passerelles, on veut réduire le nombre
exact.
De formulaires.
Parce qu'on a une impression parfois que tout est en silo et c'est difficile de passer d'un organisme à l'autre avec le même dossier.
Oui, et ça, c'est le rôle de l'Office. Souvent, ce que les ministères vont nous dire, c'est que nous, on est responsable d'un programme. Mais on voit bien que tous les programmes sont un peu interreliés, mais on n'a pas le rôle, on n'a pas le mandat de travailler sur un autre ministère. Donc, c'est là que rentre le rôle de l'Office. C'est pour ça qu'on travaille le projet de simplification. Donc, on va travailler beaucoup les passerelles cette année. Okay? On va travailler de rendre ça plus fluide, réduire le plus possible les formulaires. On prépare ça pour être capable d'implanter ça au cours des prochains mois, prochaines années.
Ça va être une excellente avancée, oui.
Oui, il y a un autre grand projet qu'on a annoncé dans le plan d'engagement 21-24, qui était le projet interministériel là, pour une meilleure réponse aux besoins essentiels des personnes handicapées. Et ça, ce qu'on découvre actuellement, on a commencé ces travaux-là, ce qu'on découvre, c'est quelque chose de fascinant. C'est-à-dire que chaque ministère, chaque organisme gouvernemental essaie de faire de leur mieux, je pense. Je pars, moi, en tout cas, avec une vision positive des choses. Mais tout étant interrelié et n'ayant pas souvent les gens contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, on voit qu'il y a des blocages. Par exemple, on va donner un service à quelqu'un parce qu'il n'y a pas de place dans le bon service. On va lui donner un service alternatif. S'il arrive quelqu'un le lendemain qui a besoin du service alternatif, mais il est occupé par une personne qui n'est pas à bonne place, mais c'était la meilleure solution
oui.
en attendant.
Oui.
Vous voyez le genre de problème?
Exact. Et là, c'est une question de coordination. Il faut avoir une vue d'ensemble et C'est un peu le rôle de l'Office de permettre de mettre ça en place, tout à fait.
Oui, et on se rend compte que, par exemple, quand l'adaptation de domicile prend un long délai pour s'actualiser, ça va avoir un impact sur les services à domicile, ça va avoir un impact sur l'intégration d'emploi, ça va avoir un impact sur la participation active dans la société ou une vie de loisirs. Ça a un ensemble d'impacts.
C'est une vision holistique qu'il faille mettre en place. Ben, Monsieur Daniel Jean, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le lancement de la semaine québécoise des personnes handicapées, c'est dans 2 jours. Mais toute l'année, l'OPHQ travaille dans ce sens-là. Vous ne travaillez pas qu'une semaine par année, loin de là. Et on a hâte de vous reparler peut-être l'automne ou l'hiver prochain pour voir l'avancement des chantiers que vous mettez de l'avant. Merci beaucoup.
C'est un plaisir. Au revoir.
C'est dû pour trouver cher. Et toi, tu veux tout mon amour. Tout mon amour, puis tu veux le choix dans ta main.
Ça te donne le goût de taper du pied. Sale Barbe, un super groupe traditionnel acadien. Éloi Pinchot, Jonathan Pinchot, son frère Kevin McIntyre, Georges Béliveau et Jean-François Brault. Une chanson de Clifton Chénier. Sale Barbe, ça, ils vont passer pas loin de chez vous faire un spectacle bientôt. Jetez-y un coup d'œil puis ça va faire certainement une belle soirée. Cela dit, maintenant, on va parler avec M. Louis Adam. Bonjour, M. Adam.
Bonjour, M. Beauregard.
C'est aujourd'hui la journée internationale de la sclérose en plaques.
Effectivement, c'est le 30 mai. À chaque année, on souligne, je vous dirais, oui. Parce qu'on ne peut pas célébrer.
On ne célèbre pas.
Maladie, c'est ça, exactement.
Mais il faut en parler.
Oui, il faut en parler, effectivement. Alors, c'est une journée importante là, pour tous les gens qui ont la sclérose en plaques sur la planète, de fait, et pour leurs familles. Alors, comme aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs édifices à travers le pays qui vont être illuminés aux couleurs de la sclérose en plaques, dont la tour du CN, dont le Stade olympique à Montréal. Alors, il y a différents endroits là, qui vont être illuminés pour souligner cette journée internationale là, de la sclérose en plaques.
C'est une couleur mauve, bleue?
C'est rouge, notre couleur, rouge. C'est le rouge SP là, qu'on a depuis toujours. Alors, c'est la couleur qui symbolise, dans le fond, les gens qui ont la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est nos couleurs.
Et le Canada a une prévalence au-delà de la moyenne de gens qui vivent avec la sclérose en plaques.
Effectivement, c'est dans notre pays que le taux de prévalence est un des plus élevés dans le monde. On comprend pas encore pourquoi. C'est sûr que les chercheurs, par exemple, qui travaillent d'arrache-pied, je vous le dirais, là, au Canada, mais partout aussi sur la scène internationale, là, pensent qu'il y a une carence en vitamine D. Ce qui ferait que, comme par exemple dans les pays qui sont un peu plus éloignés dans le fond de l'hémisphère de l'équateur, là, aurait une prévalence de sclérose en plaques.
Est-ce qu'on constate la même chose en Scandinavie, par exemple, ou là aussi?
Oui, effectivement, c'est la même chose un peu partout dans le monde, mais chez nous, il reste que chez nous, là, si on regarde en termes de ratio de population, là, on ne sait pas pourquoi on a un des taux les plus élevés au monde. Il y a des découvertes qui ont été faites dernièrement, je veux dire, qui sont importantes, je pense, aussi pour les gens qui ont la sclérose en plaques. L'Université Harvard aux États-Unis a vraiment fait des études sur une dizaine d'années auprès de militaires américains, tout ça sur une base volontaire, évidemment. Là. Ils sont en train de construire une base de données qui est extrêmement importante là, en termes de problèmes de santé ou de démographie ou de problèmes de situation socio-économique avec ces militaires qui sont volontaires. Et ils ont découvert, l'Université Harvard a publié cette recherche-là en janvier, que les gens qui sont atteints du virus Epstein-Barr, c'est par exemple le virus de la mononucléose,
d'accord,
ben, ils ont découvert que ces gens-là qui sont atteints du virus ont 32 fois plus de chances de développer la sclérose en plaques en cours de vie.
Exactement. C'est pas 32%, là, c'est fois 32. C'est énorme corrélation. Puis quand on a une corrélation aussi élevée, on peut se demander s'il n'y a pas une causalité, là, c'est sûr.
Ben, exactement. Donc, voyez-vous, lorsqu'on a fait au niveau de la Société canadienne, évidemment, quand on a vu les résultats de cette étude-là, on s'est tourné vers les instituts de recherche en santé du Canada pour demander du support financier. Même si nous, on finance énormément la recherche là, comme société, là, on a demandé du support financier aux instituts de recherche en santé du Canada là, pour essayer de comprendre encore mieux, pousser encore mieux là, cette étude de l'Université Harvard. Puis il y a déjà la société qu'on connaît tous, Moderna, à cause de la COVID-19,
vaccins. On a tous un petit peu de Moderna dans le bras, oui.
Ben, effectivement, on a un peu de Moderna dans le bras, mais Moderna, voyez-vous, ils sont déjà en train de regarder la faisabilité d'un vaccin qui pourrait contrer le virus Epstein-Barr. Fait que ce qu'on pourrait voir dans un avenir, quand ce vaccin-là va sortir, c'est évidemment le vaccin n'aura pas d'effet sur les personnes qui sont déjà atteintes. Là. Mais ce qu'on risque de voir, par exemple, c'est un taux de sclérose en plaques qui diminuerait avec le temps. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, la vision de la société canadienne, c'est d'avoir un jour un monde sans SP. Là. Et je pense que ça, c'est pas demain, là, mais je vous dirais peut-être après-demain.
Tout à fait. Bien, c'est une avancée intéressante. Si on met le doigt sur une des... On peut penser que ce n'est pas la seule cause, mais une des causes très importantes de la sclérose en plaques, cette prévalence très élevée de gens qui développent la sclérose en plaques et qui ont eu plus tôt dans leur vie une infection au virus de Epstein-Barr. Et que là, on soit capable de contrer le virus par un vaccin. On verra bien si 15 ou 20 ans plus tard, comme ça, c'est peut-être plus que le surlendemain, le taux de sclérose en plaques continue de baisser. Alors, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a plus de mononucléose au Canada qu'ailleurs?
Ça, c'est une bonne question. J'ai pas ces données-là. Mais voyez, actuellement, quand vous parlez de traitement en sclérose en plaques, il reste que, tu sais, depuis 25 ans, on est rendu à... Il n'y avait pas de traitement avant. Là.
Exact.
Aujourd'hui, on est rendu à 19 traitements qui ralentissent la progression de la maladie. Fait que ça, c'est très, très bien. Oui. Ça avance. Même si on ne comprend pas la cause, on arrive à mieux la traiter. Une personne qui reçoit un diagnostic de sclérose en plaques aujourd'hui, là, par rapport à une personne qui recevait ce diagnostic-là il y a 25 ans ou 30 ans, a une bonne chance d'avoir sa qualité de vie être stable. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont malheureusement piger le mauvais ticket de loterie, comme on dit, qui vont avoir une sclérose en plaques agressive. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes qui reçoivent un diagnostic et qui continuent à travailler, à avoir une vie de famille, à avoir des enfants.
Une vie qui est plus normale,
je vous dirais, avec des guillemets, là, que les gens qui ont comme les gens qui n'ont pas de sclérose en plaques.
Parce que je me souviens, tout à fait, il y a une vingtaine d'années, c'était une condamnation terrible quand on entendait tomber le diagnostic, là, puis entre guillemets, il n'y avait rien à faire. Puis les perspectives étaient vraiment sombre. Vous-même, M. Adam, ça fait longtemps que vous militez ou que vous travaillez dans le milieu de l'intégration, de la formation professionnelle, et ainsi de suite. Alors, vous êtes un bon témoin de la progression que la science a permise pour contrecarrer la maladie. Alors, l'étape suivante, Harvard a déposé cette étude en janvier. Mm-hmm. On voit une corrélation, peut-être une causation avec le virus d'Epstein-Barr. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui retiennent l'attention de la société canadienne?
On se concentre vraiment là-dessus actuellement. Évidemment, ce que les chercheurs essayent de faire aussi, c'est de mieux comprendre la progression de la maladie. Pourquoi certaines personnes, par exemple, progressent différemment? J'en parlais tantôt, là, des gens qui pigent le mauvais ticket de loterie, comme on dit. Bien, certaines personnes ont une progression qui est assez rapide, assez fulgurante. D'autres personnes ont une progression qui est beaucoup plus lente. On a toute la forme poussée rémission aussi, là, qui est un peu différente.
Aussi,
donc,
oui.
on travaille vraiment actuellement sur les effets déclencheurs. On essaie d'observer. C'est une étude extrêmement importante qui se fait sur le plan international, dont le Canada est le leader de cette étude-là. Là. Observer justement une grande cohorte de personnes qui ont la sclérose en plaques et observer leur progression. Je vous parlais des 19 traitements tantôt. Là, la plupart, la grande majorité de ces traitements-là sont pour la forme poussée rémission. On commence à voir apparaître actuellement des formes, des traitements pour la forme de poussée, la forme de SP progressive, primaire et secondaire. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle aussi pour les personnes atteintes, là, des différentes formes de maladie.
Au cours des mois d'été, il y a souvent beaucoup d'activités de financement de la Société canadienne de la sclérose en plaques et une grande partie de ce financement-là, évidemment, va à l'appui des chercheurs qui sont actifs dans le domaine. Alors, je pense qu'il y a des activités de vélo, de course à pied, un peu partout au Québec, qui vont se dérouler.
Oui, on est très occupé finalement dans cette période de l'année. Hier, c'était la marche de l'espoir partout à travers le Québec.
Exact.
Où on a amassé autour de 650 000 $ quand même. C'est un beau montant qui va financer la recherche puis à offrir des programmes et services aux personnes qui sont atteintes. Vous avez bien parlé, là, on a plein d'événements qui s'en
viennent. Tout à fait. Alors, on invite tout le monde, M. Adam, à être vigilant, à regarder puis à s'impliquer dans sa communauté. Bien, je vous remercie, M. Adam, directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Bonne journée, en espérant que les autres soient encore meilleurs.
Merci à vous aussi. Bonne journée.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Rebonjour. La deuxième moitié de l'émission, on va d'abord rencontrer Mme Linda Gauthier. Bonjour, Mme Gauthier.
Bonjour, M. Bourgard.
Vous êtes présidente de l'organisme qui s'appelle le Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC.
Voilà.
Je pense que tout le monde connaît davantage le mot RAPLIC que toute la description au complet. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne connaissent pas encore le RAPLIC, votre rôle est quand même... je dirais, primordial. Le RAPLIC est un organisme pan-québécois qui appuie et accompagne les personnes en situation d'handicap victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard et, je dirais, trop souvent passée sous le radar d'une certaine façon presque inconsciente des fois. Mais... on va parler aujourd'hui d'une situation qui est particulièrement révoltante parce qu'on met en jeu la vie des gens de façon directe. Les mammographies sont refusées d'une façon presque systématique aux femmes handicapées.
Absolument. Absolument.
Ça ne s'améliore pas en plus, c'est ce que vous avez constaté.
Ben voilà, on a commencé une première étude. En fait, écoutez, c'est une responsable. Je m'excuse, j'ai la voix un petit peu éraillée, là. C'est malheureux. Oh,
prenez le temps de prendre une gorgée d'eau s'il le faut, mais
c'est ce que j'ai fait, oui.
Bon, ben allons-y quand même.
Alors, je disais que en 2014, on a su par une clinique très connue à Montréal qui avait justement d'autres cliniques qui refusaient systématiquement les femmes qui étaient en fauteuil roulant pour passer des mammographies sous différents prétextes que le fauteuil, pas le fauteuil roulant, mais que le mammographe, l'appareil en tant que tel, ne s'abaissait pas suffisamment pour une femme en fauteuil roulant, ce qui est tout à fait faux. C'est la même hauteur que la chaise sur laquelle on pourrait se transférer.
Oui, bon. Fait.
En tout cas, différentes façons où que la clinique n'était pas accessible, ce qui était souvent très faux, parce qu'on avait vérifié avant. Alors, on s'est mis à faire une étude dans tous les centres de dépistage désignés. Il y a des lettres qui sont envoyées à toutes les femmes qui ont 50 ans et plus pour qu'une mammographie soit effectuée aux 2 ans. Et écoutez, la première étude a été faite en 2014. À ce moment-là, le ministre responsable de Santé et Services sociaux, c'était Gaëtan Barrette. Et ça nous a révélé qu'il y avait à l'époque, je pense que c'est 14 cliniques sur une centaine, je dirais peut-être plus une cinquantaine, parce qu'il y avait autant de cliniques qu'hôpitaux. Mais nous, on a vérifié seulement les cliniques. Alors, 14 qui refusaient complètement.
D'accord.
Et en fait, il n'y avait pas d'autres. Non, on refuse parce qu'on ne peut pas. On avait beau leur dire que les appuis-bras se retiraient, que ça devenait comme une chaise ordinaire. Puis on refusait vraiment.
D'accord. Ça, c'était en 2014. Et le ministre Barrette, à ce moment-là, avait pris un engagement de corriger la situation.
Tout à fait. Il y a pris un engagement. On a d'ailleurs porté devant la Commission des droits, puis ça, il était d'accord avec ça aussi, devant la Commission des droits, les cliniques qui étaient fautives et certaines, bon, ont quand même voulu accommoder, d'autres, c'était encore des refus. Alors, ces cliniques-là ont été jugées comme responsables, évidemment, fautives, et ont dû aménager, ont dû faire amende honorable, payer des dommages moraux et tout. Pour faire une histoire courte, en 2017, 3 ans plus tard, toujours sous la gouverne de Gaëtan Barrette, on a refait le même exercice.
D'accord.
Et il y en avait 22. Toujours seulement des cliniques qui étaient toujours en mode négatif, ils n'acceptaient pas.
Qui étaient toujours inaccessibles ou qui simplement
refusaient
d'accueillir la patiente.
De faux prétextes. Finalement, ce que Gaëtan Barrette a fait à l'époque, il a créé un algorithme qui faisait en sorte que les femmes qui téléphonaient pour avoir une mammographie, la première question que la réceptionniste devait poser, c'était « Êtes-vous en situation de handicap? » Et ça s'est révélé que, malheureusement, il servait à peu près à rien, cet algorithme-là. Les réceptionnistes ne s'en servaient pas vraiment. Fait qu'on a eu quand même, encore là, un petit peu de travail à faire, de sensibilisation, en 2017. Mais compte tenu du lot de travail que leur applique a et de la petite équipe, on a mis ça un peu de côté. Mais quand même, Gaëtan Barrette, malgré tout ce qu'on a à lui reprocher, et avec raison, la grande réforme, c'était un geste quand même significatif qu'il posait là.
Oui, il faut lui donner, à ce sujet-là, il a été sensible au problème.
Absolument, tout à fait. Lui, d'ailleurs, vous savez, c'était sa formation.
C'est un radiologiste.
Radiologiste, voilà. Et comme ça, on s'est dit, bon, OK, le problème est... On avait mis comme une espèce de, comment on dit, un plaster sur le bobo. On a refait l'exercice en novembre dernier. Et cette fois-ci, on a inclus les hôpitaux, les centres hospitaliers qui passaient des mammographies. Il y avait quelque chose comme 100 endroits, d'accord, incluant les cliniques partout au Québec.
Une centaine de sites, oui.
Centaine de sites. Et on en a pour 52 % qui ont signifié des refus. Soit des refus catégoriques, style, non, nous, on vous réfère à l'hôpital quand c'était des cliniques. Et quand c'était des hôpitaux, ben là, ils patinaient encore plus. Il faudrait vérifier avec un médecin spécialiste. Ben oui, mais... déjà au départ, là, c'est un exercice qui est quand même... C'est pas plaisant de passer une mammographie.
Mais en plus, là, c'est parce que là on est rendu, quand on invoque le médecin spécialiste, là...
Ben voilà.
On part de ce qui était au début des impossibilités physiques, là, réelles ou imaginées. Puis là, on en vient à mettre, une opinion subjective qui, là, ça commence à être vraiment difficile à contourner puis à prouver. Oui. Puis mettre la main sur un médecin spécialiste, on le sait, là, ça ne se fait pas en 24 heures.
Non. Alors, on a envoyé notre étude, encore là, un tableau, au ministre Dubé. Mmh. Et on n'a même pas eu de retour au début. Ben, je comprends qu'il y avait la pandémie. La pandémie a le dos bien large, hein, évidemment. T'sais, ça va aider pour certaines choses. Soit dit en passant, celle-là, qui faisait en sorte que c'était la pandémie qui était la priorité au gouvernement. Et j'ai rien à dire là-dessus. Mais il faut s'occuper du reste aussi. Mais
est-ce que, à l'origine de ça, est-ce que c'est de l'ignorance, de la paresse, un souci d'économie, que ça puisse prendre un peu plus de temps pour réaliser la mammographie d'une femme qui est en situation d'handicap et conséquemment, on va en faire moins dans la journée?
C'est ça.
C'est ça qui est le fond de l'affaire.
Bien, le fond, oui. C'est une des raisons. Effectivement, on donne deux plages horaires plutôt qu'une seule. C'est-à-dire, plutôt que donner 15 minutes, on va donner 30 minutes. Des fois, un petit peu plus. Alors, il y a quand même des conséquences à ça pour la clinique en tant que telle, ou le centre hospitalier, parce que eux, il y a une perte de sous, hein, si je peux m'exprimer ainsi.
Ben oui, et je pense que ça part de là, c'est terrible à dire, là, mais l'argent est le moteur du monde. Donc, si les cliniques décident que c'est l'appât du gain puis qu'il faille être le plus productif possible, puis que si une patiente prend plus qu'un quart d'heure, on la veut pas,
c'est ça.
C'est un déni de service.
Ah, tout à fait. Mais il y a aussi, comme vous disiez, M. Bourgard, il y a les préjugés, OK, qui sont les préjugés malsains souvent, là. Il va y avoir que les femmes handicapées, celles souvent qui vont vivre avec une paralysie cérébrale, qui vont baver. On ne veut pas... C'est un facteur de la maladie. Souvent, pas tout le temps, mais ça arrive.
Exact.
Elles vont s'exprimer, vont avoir un problème d'élocution. La technicienne ne comprendra pas, puis ça les met mal à l'aise. Il y en a qui ont des spasmes incontrôlables.
Alors, ça devient plus difficile,
ça
oui.
Ça devient plus difficile.
Mais si c'est... C'est comme ça. C'est, voilà, il faut vivre avec.
Oui, et souvent, on va attribuer le handicap de une et le handicap de toutes.
Exact, oui.
Et de toute façon. Fait que, c'est ça.
Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Parce que, comme vous dites, ça part de préjugés qui sont malheureusement prévalents. Ouais. En plus d'un souci économique mal placé quand il s'agit de prestation de service à toutes les citoyennes, pas juste celles que ça va plus vite. Et ça fait beaucoup.
Beaucoup. Les femmes âgées, les aînés, qui ne sont pas nécessairement en situation de handicap, mais
exact,
définitivement mobilité réduite.
Oui. Le cancer du sein, ça passe. C'est pas, on parle pas du rhume des foins, on parle d'une maladie qui tue.
Oui, puis je suis contente, puis je vous remercie aussi, monsieur Bourgand, d'être la courroie de transmission entre nous et le grand public pour que ça sache que le gouvernement, malheureusement, je dirais, appuie cette discrimination-là, cautionne ce qui est fait parce qu'ils font rien. Ils disent, oui, on est au courant, on s'en occupe. C'est faux. Ils s'en occupent pas. Alors, nous, ce qu'on a décidé de faire, ben, c'est malheureusement servir encore d'une confrontation à la Commission des droits.
Et par ailleurs, parce que rappelez qu'on a une vie organisationnelle, c'est votre Assemblée générale ce samedi, 4 juin.
Voilà. Oui.
C'est pour les gens qui veulent s'impliquer, qui veulent connaître vos actions, qui sont interpellés par ce dont on parle.
Oui.
Ça va être une Assemblée générale virtuelle. Donc,
oui,
tout le monde peut y participer à partir de chez soi. Et ça va être une façon importante là, de montrer que le mouvement de revendication pour les droits des personnes handicapées, là, c'est pas le fait de quelques-uns ou quelques-unes, c'est large.
C'est large. Et ça sera sur notre page Facebook. Évidemment, le lien va être mis là dès vendredi. Alors, si les gens veulent s'inscrire au préalable, peut-être même jeudi.
Tout à fait.
De fait, c'est ça. S'inscrire, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, il va y avoir un vote, une élection pour des personnes qui voudraient s'impliquer, mais évidemment, ceux qui ne sont pas membres en règle n'auront pas le droit de vote.
Mais de s'informer, c'est le début d'une action citoyenne.
Voilà.
Exact. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Gauthier.
C'est moi qui vous remercie,
M. Alors, on peut aller à www.raplique. Raplique, c'est R-A-P-L-I-Q-Q comme Québec.
.org.
Voilà. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne fin de journée.
Wondrous Stories du groupe de rock progressif britannique Yes. Le groupe Yes a été surtout connu pour ses œuvres et ses spectacles un peu théâtraux, pas autant que Genesis, mais tout de même son rock progressif dans les années 70. Wondrous Stories est sorti en septembre 77, composé par John Anderson. Il y a des musiciens remarquables dans ce groupe-là. Steve Howe à la guitare électrique. Chris Squire, un des meilleurs bassistes de rock, qui est décédé il y a quelques années. Rick Wakeman, probablement, ou pas loin d'être le meilleur claviériste de rock progressif qu'on a eu. Et Alan White, qui est à la batterie, aux percussions. Alan White est décédé la semaine dernière. On arrive maintenant, malheureusement, dans une époque où d'excellents vieux rockers nous quittent. Alors, M. White, après presque 50 ans avec Yes, est décédé la semaine dernière. Voilà de quoi il s'agissait. Manon Boisvert, bonjour.
Bonjour, M. Beauregard.
Ça va bien, oui. On va parler de rock progressif britannique. Puis là, oups, tout d'un coup, on va parler de 40 ans déjà aussi, mais avec les services spécialisés de main-d'œuvre Essor 2, qui offre ses services à la population lanaudoise comme Lanaudière, hein? Ceux qui ne l'auraient pas deviné. Madame Boisvert, vous êtes la directrice générale. Parlez-nous un peu de comment c'est parti Essor et tout ce que vous faites aujourd'hui.
En fait, c'est parti en 1975, au niveau de l'hôpital de Joliette, là, qui était à l'époque là, le CHRDL. Et il y avait deux travailleurs sociaux qui avaient à regarder quelle clientèle là, dans les personnes qui avaient un trouble de santé mentale pouvaient être en mesure là, d'intégrer l'emploi. Donc ça, c'est en 1975. Après
on parle de deux personnes, là. C'est vraiment embryonnaire, là.
Oui, c'est vraiment parti de deux travailleurs sociaux et qui ont fait toute la différence. En effet, en 1977, là, Essor a vu le jour grâce à ces deux travailleurs-là qui ont mis sur pied là, le projet. C'est un projet pilote à la base. Et puis par la suite, là, en 1982, le service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2 a vu le jour. Essor 2 parce que c'était le deuxième. Là, le gouvernement ne voulait pas qu'on continue avec le premier nom là, qui D'accord. était Essor. Donc, on est devenu financé là, par le gouvernement du Québec plutôt que le fédéral là, en 1982. C'est pour ça que cette année, là, on fête notre 40e. Au fil des années, là, à cette époque-là, on desservait la clientèle santé mentale et ayant un trouble de toxicomanie. Et par la suite, là...
S'est élargi, votre clientèle.
Oui, ça s'est élargi. Là, actuellement, on dessert toute clientèle là, qui est en situation de handicap. Donc, ça peut être aussi bien la clientèle qui a un trouble de santé mentale, physique, déficience intellectuelle, autisme, langagier. C'est vraiment toute clientèle. Là.
Et votre rayon d'action, est-ce que ça se limite encore qu'à la Naudière?
Oui, nous, on dessert la région de la Naudière.
C'est chanceux.
On fait partie d'un regroupement qui s'appelle le ROSEPH, R-O-S-E-P-H. Oui. Et il y a un service comme le nôtre là, dans chaque région du Québec.
Exact.
Oui.
Mais le vôtre, depuis 40 ans, vous avez, je dirais, balisé le chemin en bonne partie, puis vous êtes maintenant dans la région de Joliette, dans un sens large, là, vous êtes des incontournables. Votre action se tourne à la fois vers les individus qui veulent être employés, puis en même temps les employeurs. Alors, vous parlez aux deux parties.
Oui, en effet. Les deux sont nos clients. En fait, on aide les personnes là, en situation de handicap à se trouver un emploi. On a des conseillers en emploi, des agents d'intégration là, qui aident à la démarche de recherche d'emploi, mais également au maintien en emploi. Donc, par exemple, le conseiller en emploi va travailler avec la personne. C'est vraiment du cas par cas et on travaille de façon individuelle, donc avec chacun des clients. Et puis, on regarde avec eux où ils sont rendus, leurs capacités. On essaie de trouver là, des emplois qui conviennent à leurs capacités, intérêts et leurs compétences. Et après ça, nos agents d'intégration peuvent aider là, lors de l'intégration en emploi et pour leur maintien en emploi. Donc, ils vont dans les entreprises là, pour aider les personnes, par exemple, à gérer leur anxiété, à voir là si le poste convient, les amener à trouver des façons de faire pour devenir plus productifs. Donc, on offre ces services-là. On a aussi des aides financières là qui peuvent être allouées là, aux employeurs pour compenser le manque de productivité, entre autres. Et puis aussi, on travaille avec les employeurs. Par exemple, les employeurs qui ont besoin de main-d'œuvre nous appellent et on regarde dans notre clientèle si on a des personnes là qui pourraient convenir là, au poste qu'ils ont comblé et qui ont les compétences, évidemment. Donc, on fait de la présélection de personnel. Les employeurs qui embauchent nos clients peuvent nous appeler s'ils vivent des difficultés ou s'ils ont besoin d'aide. On peut aller en entreprise là pour sensibiliser l'employeur, les collègues de travail aux particularités de la personne. Pour faire en sorte là, que tout se passe bien en emploi.
Parce que, est-ce qu'il est vrai de penser que souvent, par manque d'informations, ou, il peut y avoir chez des employeurs qui n'ont pas encore intégré dans leur force de travail des personnes en situation de handicap? Au début, il y a peut-être des réticences ou des craintes, mais qu'une fois que cette barrière-là est franchie, les employeurs ont tendance à en redemander d'autres, si je peux dire.
Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent que les employeurs, c'est ça, c'est pas par mauvaise intention, mais c'est par manque de connaissances, donc qui ont de la difficulté là, à oser en embaucher une première personne. Mais de plus en plus, là, on en voit qui sont intéressés, qui nous appellent. Et bien souvent, c'est ça, quand ils ont vécu une belle expérience, parce que la majorité, là, c'est des belles expériences, ils voient que les personnes ont des compétences. Hein. On parle de handicap, mais derrière le handicap, là,
il y a une personne qui est prête à travailler puis qui a tout à fait des talents aussi.
Oui, qui a des belles compétences. Des fois, elle demande un petit peu plus de temps là pour l'intégration, mais justement, on est là pour aider. Puis une fois que c'est intégré, bien on vit des belles réussites. Donc, c'est pour ça que les employeurs, bien souvent, vont nous rappeler pour nous demander là si on a d'autres personnes à les référer.
Parce que souvent, la personne en situation d'handicap est loyale et son taux d'absentéisme est faible. Et va avoir va démontrer une forme de gratitude pour l'occasion qui lui a été présentée. Puis après ça, ben ça se traduit en fait par des gains de productivité à la longue. Ça a un bon effet aussi sur les autres employés ou les autres personnes à l'intérieur de l'entreprise. Quel type d'entreprise? Est-ce qu'il y a des créneaux dans lesquels vous placez plus de monde?
Maintenant, là, c'est vraiment rendu tout type d'entreprise. Ça peut être aussi bien. On a beaucoup de petites entreprises. Mais on a aussi des grandes entreprises. Donc, c'est vraiment, là, on peut pas dire c'est tel type d'entreprise. Parce que, vous savez, dans notre clientèle, on a aussi bien des personnes, là, qui ont des handicaps physiques ou qui ont des diplômes d'études secondaires ou professionnels ou encore des baccalauréats. Donc, on peut placer dans toute entreprise. Où on a un petit peu plus de difficultés, où c'est toujours un petit peu plus difficile, malheureusement, c'est souvent dans les organismes publics.
D'accord.
C'est là où c'est le plus difficile souvent d'intégrer des personnes, il y a des syndicats et tout ça, et des fois ça complique un petit peu les choses, mais on travaille de plus en plus avec eux pour essayer de voir comment on peut intégrer des personnes et que ça se passe bien là, dans les organismes aussi. Donc, on travaille d'ailleurs, par exemple, avec les villes, on a la ville de l'Assomption qui a participé à notre projet, là on a un beau projet pour les jeunes.
Oui, c'est ça, jeunes ou boulot, je pense.
Oui, entreprise inclusive, jeunes au boulot. Donc, on a la ville d'Assomption, par exemple, qui a participé, qui a reçu une personne de nos participantes là, dans sa bibliothèque. Et la personne a été embauchée là par la suite. Donc, on espère là que les municipalités, les organismes publics là vont de plus en plus intégrer aussi des personnes en situation de handicap.
Est-ce que à l'intérieur du RECEF, parce que comme vous le dites, vous êtes des intervenants très impliqués depuis longtemps dans la région de la Naudière, est-ce qu'il y a un échange d'informations, de bonnes pratiques, de choses qui fonctionnent et comme ça que vous puissiez reproduire dans une région ce qu'une autre région réussit à bien faire?
Oui, on a des rencontres justement avec les directions, le conseil d'administration du ROSEF et de chaque région du Québec, là, chaque service spécialisé de main-d'œuvre SR2. Donc, on partage justement nos bons coups, ce qui se fait bien. On travaille, on a aussi une directrice du regroupement qui est très proactive et notre directeur, notre président également, le président du ROSEF. Donc, on essaie de voir comment on peut développer, comment on peut offrir justement des services, des projets qui vont autant répondre aux besoins des entreprises que que de la clientèle là, qui vient dans nos organisations.
Vous êtes rendu à combien de personnes qui sont placées en ce moment?
En fait, on en place dans notre région. Là, oui. Dans les dernières années, on a placé environ 300 par année.
Oh,
donc,
bon.
Si on regarde l'année dernière, là, on avait placé 300, mais on a aidé aussi au-dessus de 200 personnes là, pour le maintien en emploi.
Oui,
dans le sens qu'on,
tout à fait.
Oui, on a des contrats d'intégration au travail qui sont des aides financières, justement, pour compenser là, pour le manque de productivité.
C'est formidable. Je vous remercie, Mme Boisvert. J'entends la petite musique de fond là dans mon oreille. Alors, Madame Boisvert, vous êtes directrice générale SR2. Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Merci. Merci aussi à M. Maurice Bolduc à la régie et l'infatigable Mme Claire Guérin à la recherche. François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine, lundi midi.